qui concerne la communauté de Poudra. Le terme communauté, voyons, nous montre tout de suite l'importance que peut avoir pour nous une telle étude, étant donné la vision communautaire qui est la nôtre. Et effectivement, c'est surtout sous cet angle-là et dans cette perspective-là que nous l'envisagerons. D'autant que cette communauté nous permet non pas non pas que ces gens-là soient des pré-chrétiens, comme on l'a parfois pensé un peu trop rapidement, mais tout simplement parce que la communauté de Qumran s'inscrit dans un ensemble, dans un courant de pensée, dans un courant spirituel, qui était celui dans lequel aussi est né le christianisme. C'est le deuxième aspect sur lequel nous allons justement étudier cette communauté. Maintenant, pour élargir un peu le débat dès le départ, nous dirons que la communauté de Qumran, dont nous verrons s'il faut l'assimiler ou non avec la secte des Esséniens, dont nous parle Rabbi Joseph, Dillon et d'autres, cette communauté s'inscrit dans le cercle apocalyptique que nous avons étudié la dernière fois ensemble. Les gens de Qumran sont des apocalypticiens, exactement comme les chrétiens étaient des apocalypticiens. Et alors, il ne faut pas nous étonner, bien sûr, de trouver un certain nombre de points communs entre ce groupe-là et l'Église primitive, et il ne faudra pas non plus nous étonner de trouver des différences également. C'est même que nous allons voir, ces deux groupes ne sont absolument pas assimilables l'un à l'autre, mais ils se situent dans un ensemble, avec un certain nombre de points qui les recouvrent. Voilà. Après cette introduction, les faits. Je ne vois pas ce qu'on connaît de la plupart. En 1947, un bédouin dont on fait l'interprète s'est bloqué dans le Wadi Qumran, c'est-à-dire qui se situe à peu près au nord de la mer Morte, quelques kilomètres au sud de Jéricho. Bon, une de ses chèvres s'égare dans la voiture, il va le chercher, et il pénètre, pensant que cette chèvre peut-être un peu dans une grotte, il pénètre dans l'intérieur des nombreuses grottes qui sont un petit peu différentes. Et pour de sûreté, il prend une pierre, il la lance dans la grotte pour voir si éventuellement la chèvre répond, et puis en fait, il entend une bruit sourde pour stabiliser. Alors, il est intrigué, il s'avance, et il découvre un certain nombre de jarres. C'est un peu plus difficilement, d'ailleurs, que sont totalement acceptables pour qu'il rencontre les deux, très exactement. Et il s'imagine qu'il va prendre un trésor, cette jarre, il s'est presque à l'ouvrir, il y a simplement des morceaux de cuivre, etc. Dans son dépit de ne pas avoir trouvé ce qu'il comptait, c'est-à-dire de l'or ou des trésors sur la table, il réfléchit. Et puis ensuite, il s'est dit qu'il va pouvoir peut-être tirer un bon prix chez des Américains un peu naïfs, les Américains, et c'est ce qu'il fait désormais, et des gens sur les marchés PTL, avec les Américains, ça s'arrête. Donc, c'est pas le plus grand hasard, qu'un de ces fragments tombe entre les mains entre les qui se rend compte aussitôt que c'est peut-être quelque chose, une découverte très importante, et il se rend à l'Institut des recherches American Institute of Public Research, l'Institut des recherches américaines, Milard de Rose, qui examine les manuscrits, qui nous apprend surtout que mon père a sans doute les plus sensationnels de l'archéologie de tout le temps. Il consulte un de ses collègues, il consulte le de Jérusalem, qui lui aussi bénévolement pour les questions de l'extraordinaire, mais essaie de retrouver les trouver une question. Il est venu à l'endroit où il a trouvé les boulots, il trouve la grotte, etc. chasser les meilleurs, etc. Et la chasse au boulot qui s'étale depuis 1957 à 1952, avec les productions de la guerre indépendante d'Israël, et les versements politiques, fait que les boulots prennent des chemins comme un hiver, et c'est finalement en 1952 que les sept premiers boulots sont rassemblés à l'Université d'Aïe de Jérusalem. Alors, les boulots sont les suivants. Il y a tout d'abord le plus important de ce boulot, qui est le grand boulot des Aïe. Le livre des Aïe dans son ensemble, les 66 chapitres du livre du prophète Aïe, qui sont absolument visibles, étant donné que les conditions dans lesquelles ils ont été conservés sont exceptionnelles, le climat exceptionnellement sec de la mer morte les a conservés pratiquement intacts. En plus de ça, ils étaient enveloppés dans des pieds, etc., pour les protéger, si bien que leur état de conservation est absolument efficace. Ils continuent à être conservés, bien sûr, au musée du livre à Jérusalem, un musée spécial pour ça, pour les publier. D'ailleurs, ce n'est pas le livre lui-même, donc il est au centre de l'enfant, mais c'est dans les productions de l'hôpital et dans les cadres. Spécial, avec des degrés, des communautés particuliers, etc., pour finalement pouvoir les conserver. Et donc, ce boulot était composé de 54 feuilles de parchemin, de tête, de cousue et de nouveau, de prendre un boulot, de l'enculer, sur les baguettes, de l'ouvrir, et compter pour les 734 centimètres de long. Dans le même temps, nous avons un deuxième boulot des alliés gagnants. Qui lui est un petit peu plus gros et un petit peu moins conservé, qui ne comprend d'ailleurs qu'une partie du livre, qui ne comprend pas les 66 chapitres, et qui fait 152 centimètres. Il y a aussi, le troisième boulot, c'est une genèse apocryphe, c'est-à-dire un récit de la genèse qui est différent de notre genèse biblique, qui reprend en gros les mêmes événements, mais qui évidemment, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas dans la Bible. C'est donc quelque chose de tout à fait unique. Ensuite, quatrième boulot, c'était le commentaire d'Habacuc. Le livre d'Habacuc, mais commenté verset par verset. Vous pouvez citer. Ceci signifie que, etc., etc., et qui est un document capital pour notre propos ce soir, parce que il est interprété comme se référant à l'histoire de la secte. L'histoire de la secte de Qumran. Donc, si nous voulons connaître l'histoire de la secte de Qumran, c'est un des documents de base pour étudier cette histoire, qui d'ailleurs nous reste extrêmement obscur malgré ce commentaire et qui nous reste extrêmement mal connu. Ensuite, il y a un autre document tout à fait curieux que Soukénik, l'a étudié le premier, a baptisé, si je dis, la guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du récit, pas du récit vraiment, mais je dirais de l'annonce prophétique d'une guerre apocalyptique qui doit marquer l'avènement du règne de Dieu et au cours de laquelle les membres de la secte qualifiés de fils de la lumière doivent se heurter aux armées de l'Antichrist, disons, qui sont représentées par les ténèbres. Et alors, cette guerre qui doit se passer en sept manches, si vous dites, c'est-à-dire qu'il y a sept épisodes de cette guerre, sept batailles, si vous voulez. Trois au cours desquels les fils de la lumière sont vainqueurs, trois au cours desquels les fils des ténèbres sont vaincus, et une septième au cours de laquelle les fils de la lumière sont définitivement vainqueurs des forces de Bélial, c'est-à-dire des forces des ténèbres, des forces de Satan. Et c'est la raison du Messie, c'est la raison du règne de Dieu. Ensuite, nous avons un sixième document sixième boulot auquel Soukenik a donné le nom des hymnes d'action de grâce. On appelle bouger les hymnes. Il s'agit de psaumes apocryphes que Soukenik a appelé hymnes d'action de grâce parce qu'ils commencent tous par cette expression « Je te loue ». Et ce n'est pas d'ailleurs, comme nous aurons l'occasion de voir, sans rappeler ce que l'on appelle l'hymne de jubilation, qu'on trouve dans les évangiles, où Jésus dira « Je te loue, le Seigneur, l'Éternel, Père du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses, comme ça, je veux que tu les adorais, le petit. » C'est la même pensée. Et puis enfin, et nous trouvons un dernier document qui lui aussi est un document extrêmement important pour notre propos, que Soukenik a appelé le manuel de la discipline, car il s'agit d'un, en quelque sorte d'une règle, de la règle de la communauté. En fait, ces documents ont révélé dès le premier abord qu'ils ont été écrits, qu'ils ont été conservés par une communauté, le Kibbutz, pour employer un terme moderne, qui avait un certain nombre de règles intérieures, de règles morales, de règles spirituelles et de règles sociales, qui se trouvaient codifiées dans justement ce document-là, qui pour cette raison porte le nom de manuel de la discipline. Il faut dire que ce document, qui avec le commentaire d'Habacuc, et celui qui nous donne le plus de données sur la secte est tout aussi obscur. Parce que, par exemple, l'histoire précise de la secte n'est pas révélée. Enfin, la secte, il faut parler au sens juif du terme. On parle de secte, c'est au sens juif. C'est-à-dire, c'est pas au sens programmatique que nous donnons aujourd'hui. C'est une organisation comme les pharisiens, les sadducéens, etc. Une tendance, une grande judaïque aussi. Donc, l'histoire de la secte, je reviens, n'est pas très claire, même au travers justement de ces documents-là. Alors évidemment, cette découverte, qui s'agissait dans un premier temps de dater. Le gros problème de l'archéologie, c'est toujours le problème de la chronologie et de la datation. Et alors là, jusqu'à 1956, à peu près, le débat fait rage parmi les savants pour savoir à quelle époque il fallait dater, de quelle époque il fallait dater ces manuscrits. Et Soukenik, Moreau et le père Devaux, Roland Devaux qui était le directeur de l'école du début de l'Université de Jérusalem, qui s'est beaucoup aussi penché sur les documents, des gens comme John Allegro, comme Dupont Sommer et d'autres, penchés pour une date extrêmement ancienne. Et ils ont posé pratiquement des contemporains de l'époque du Nouveau Testament. Et puis des gens comme Zeddin et d'autres se penchaient pour le Moyen Âge. Finalement, à partir de 1956, tous les spécialistes, ta foi, on peut peut-être même plus fort. On a baissé les coups. Oui, c'est le plus à 80. Olivier, tu peux parler que tu peux s'imposer là. Donc, l'hypothèse selon laquelle ces documents dateraient du Moyen-Âge est pratiquement abandonnée aujourd'hui. Cette thèse reposait sur le fait qu'au 9e siècle après Jésus-Christ, une secte juive de l'époque, que l'on appelait les Karaïtes, faisait mention dans leurs écrits qu'ils avaient retrouvé sur le bord de la mer Morte un certain nombre de manuscrits. Alors on pensait que c'était des manuscrits proches justement des Karaïtes, c'est ce que pensait Zeddin, et que dans le fond, on avait affaire à des documents de cette époque-là. En fait, aujourd'hui, pour différentes raisons pour lesquelles ils sont trouvés montrés, on est absolument sûr que les documents datent de la fin de l'époque du XIXe temps, c'est-à-dire, si vous voulez, grosso modo, de l'époque du Nouveau Testament. Nous verrons tout à l'heure, pour préciser davantage, la fourchette de temps dans laquelle il faut situer ces documents. Maintenant, ces documents sont extrêmement importants, d'abord pour la recherche biblique, ce n'est pas notre sujet ce soir, donc je l'évoque simplement très très brièvement, car un grand rouleau comme le manuscrit d'Ésaïe, par exemple, était de 2000 ans plus ancien que les plus 2000 ans plus anciens, pardon, que les documents les plus anciens que l'on avait de la Bible. Et évidemment, ce qui était tout à fait intéressant, c'était de comparer le texte que nous avions qui date du Moyen Âge, pardon, et le texte de l'époque de la Bible. Or, à des milliers de petites variantes près, des lettres, par exemple, des choses comme ça, il était en tout point semblable. Et c'est aussi, par exemple, que Professeur Boros, qui a travaillé sur la révision de la Bible américaine, qui s'appelle la Revised Standard Version, qui a pris en compte précisément justement ces découvertes de la mort, a été amené à traduire différemment le texte biblique à partir du moment d'avènement, en tout cela seulement sur l'ensemble du texte biblique. Donc, c'est 66. Sur les 66 chapitres d'Ésaïe, il a préféré, si vous voulez, changer un certain nombre de mots 12 fois seulement à partir des textes de la Bible. Donc c'est vraiment minime. Et ceci a été un démenti cinglant pour un certain nombre de gens, libéraux ou bien croyants, qui pensaient que le texte biblique était un texte plus fiable, que c'était un texte qui avait été modifié par les copistes ultérieurs, etc. Nous voyons là, au contraire, comment en 2000 ans, les variations, les variantes qui ont été introduites par les copistes entre donc, l'année 0 de notre ère, à peu près, si vous voulez, et l'an 1000, sont finalement extrêmement minimes. Donc nous avons affaire à un texte fiable, un texte sur lequel nous pouvons nous baser. Alors, ça c'est un aspect dans lequel je ne serai pas ce soir, que je cite simplement pour mémoire, et pour noter justement le gros intérêt qu'il y a eu pour la recherche publique de la découverte des manuscrits de la mémoire. Maintenant, il est bien certain qu'au moment où ces documents ont été découverts, on s'est dit que vraisemblablement, il y avait d'autres découvertes à faire dans le même secteur. Et l'on s'est mis à créer toute cette région de Wadi Kumra. Et c'est ainsi que le père de Gaulle et John Allegro, en particulier, ont découvert, non loin de la grotte, la première grotte où on avait découvert le manuscrit, la grotte manuscrit comme on l'a appelé depuis lors, un site archéologique qui n'avait pas encore été fouillé, que les Arabes appellent un Rigbet, c'est-à-dire un mi-chemin entre l'autel, que nous avons déjà évoqué en ce temps, on ne va pas faire plus sur l'autel, et puis tout simplement un site temporaire. Et là, des fouilles très importantes ont été effectuées, notamment justement par les Dominicains, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et ont mis en évidence un ensemble de bâtiments tout à fait particuliers, tout à fait curieux. C'est ainsi que, attendez, j'ai le détail exact. Nous avons découvert exactement enfin, ce qui était tout d'abord important, ce qu'on a d'abord trouvé, c'était un très très vaste. Ah oui, c'était d'abord un aqueduc. La première chose que je vois découvrir, c'était un aqueduc, bien sûr, parce que le problème là, le gros problème de la race, c'est le problème de l'eau. Et cet aqueduc prenait l'eau dans le bâtiment lui-même. Et puis le conduisait jusqu'à cet ensemble de bâtiments qui se trouvaient un petit peu à quelques distances de là, donc à quelques distances de la mer Morte également. Les gens qui étaient là, vraisemblablement, se livraient à une certaine culture, puisque la ville s'était aussi à irriguer des terres qui étaient sans doute cultivées par les gens qui habitaient Kumran à cette époque-là. Maintenant, l'ensemble du bâtiment lui-même était composé de la manière suivante. Ce qui était central, c'était une grande salle. Sur cette salle, tout autour de cette salle, il y avait des bancs qui étaient donc accolés au mur. Et l'ensemble de cette salle, il y avait deux choses. Il y avait d'une part des restes de tables. Là, sur lesquels les pierres en général, sur lesquelles on s'installait. Et puis, à côté de cela, il y avait deux autres salles petites, une qui contenait d'autres tables de la même disposées de la même manière, mais avec des encriers. C'est très intéressant. Il restait des restes d'encre dans ces encriers. On les a analysés. Et on s'est rendu compte que l'encre était la même, de la même composition que celle qui avait été utilisée pour écrire les documents. Si bien que très vite, on a été amené à faire une relation entre ce scriptorium, comme on l'a appelé, c'est-à-dire un endroit où les scribes se tenaient, et puis les documents. On est arrivé à la conclusion, à 95% que les fameux documents qui ont été découverts dans la grotte au lit, la grotte de la scribe, ont été utilisés dans ce scriptorium de Dumas. Deuxièmement, le manuel de la discipline en particulier décrit une communauté de type, on l'a appelé un peu rapidement monastique, je crois que le mot est un petit peu fort, en fait, une communauté dont la vie spirituelle, liturgique et communautaire est bâtie autour de repas communautaires. Il est tout à fait probable que la grande salle autour de laquelle exploite l'ensemble des bâtiments de Kubran était un vaste réfectoire qui servait à la fois de réfectoire, comme on dit, mais aussi de salle de réunion pour le nom de la communauté, selon une procédure très précise qui est décrite dans le manuel de la discipline et sur laquelle nous aurons à revenir. Et ce qui va dans le sens de cette hypothèse, qui est la première quasi certitude, la plupart des spécialistes, c'est qu'à côté de ce scriptorium, il y avait une cuisine, un ensemble de cuisines adéquatement. Mais qui n'était pas une cuisine de type privé, mais vraiment une cuisine importante, donc une cuisine de type communautaire. Il y avait également des magasins qui étaient entreposés en permanence. On avait trouvé par exemple des restes de meubles, des choses semblables, qui s'étaient admirablement conservés, étant donné les conditions exceptionnelles qui régnaient sur les bords de la mer Morte. Il y avait des silos, il y avait des jars dans lesquels étaient conservés le vin et l'huile, qui servaient justement à la cuisine de la communauté. Et il y avait assez peu. Il y avait quelques habitations privées autour de l'ensemble, mais assez peu. Ce qui par contre était intéressant, c'est qu'il y avait au-delà un endroit alors très très nettement séparé du reste de l'ensemble des bâtiments, finalement, qui tout était, les bâtiments étaient donc essentiellement des entrepôts. Hein, des entrepôts pour des provisions, pour des outils, également des outils, un peu des outils agricoles. On a retrouvé aussi un endroit où étaient fabriqués des poteries. Il y avait des restes de poteries encore, il y avait des tours de poteries. Et ces poteries étaient les mêmes, justement, que celles qu'on a retrouvées dans les grottes, dans lesquelles aussi se trouvaient les manuscrits. On a retrouvé une tannerie où étaient préparés, justement, les puits pour faire les manuscrits. Là aussi, donc, tout correspond. Maintenant, en dehors, très loin, disais-je, enfin, à une distance relativement appréciable de l'ensemble des bâtiments, on a retrouvé un cimetière. Et le cimetière dans lequel était enseveli, vraisemblablement, qui apparaissent comme étant essentiellement des hommes. Mais pas seulement des hommes, il y avait aussi des cadavres, des femmes, des squelettes, des femmes et d'enfants. Si bien que l'hypothèse qui a fait grand bruit en son temps, qui a servi d'ailleurs de base pour l'identification des gens plus graves avec les enseignants, parce qu'on sait d'après Joseph, par exemple, qui ont aussi, nous disent que les Esséniens étaient des gens qui étaient célibataires. En fait, même s'il y avait dans le cimetière du Mar une majorité d'hommes, il n'y avait pas que des hommes. Donc, les gens du Mar n'étaient pas tous célibataires. Il y avait des gens qui étaient mariés, des parents de femmes et d'enfants. Si bien que c'est une des raisons qui font qu'il est difficile de dire que les gens du Mar étaient les Esséniens, si tant est que les Esséniens aient vraiment été célibataires. Ce que l'on peut dire également des découvertes, c'est que la communauté telle qu'elle existait là, alentour, il y avait à quelques distances, on a trouvé des structures extrêmement frustes qui, vraisemblablement, étaient au droit où les membres de la communauté habitaient d'une manière régulière. Si bien que nous n'avons pas affaire, en fait, arrivé à ce stade de notre étude, à une communauté réellement monachique, où tous les membres de la communauté auraient vécu ensemble d'une manière constante. Mais il semble que la plupart d'entre eux habitaient à quelques distances, d'une manière assez simple, et qu'ils se rassemblaient tous les jours, mais ils se rassemblaient en tout cas très souvent pour les repas communautaires, bien que notre foi ait été le centre de leur vie. Se rassembler pour des cérémonies particulières qui sont décrites justement dans le manuel de la discipline, et que le reste du temps, ils vaquaient à leurs occupations d'une manière plus ou moins privée, dans ce sens. Ce que nous aurions à faire, si nous voulons prendre une comparaison d'Abel, donc à une structure qui se rapprochait plus du Moshav que du Kibbutz, proprement dit. Et nous verrons, quand nous étudierons le manuel de la discipline, que le problème de l'argent, en particulier à l'Imoral, se rapprochait plus du mode du Moshav que du mode du Kibbutz. Il y a ce niveau, une version d'avance, des textes qui sont assez contradictoires dans les documents du Moshav, des textes où il est question que le nouveau membre, le postulant, doit obligatoirement donner tous ses biens à la communauté, au moment où il entre, de maintenir la communauté. Il y a d'autres textes où il nous est dit que celui qui a fraudé, par exemple, est tenu de donner sur son salaire une amende, une liée à la banque. Donc il doit donner une amende en argent. Bon, si ces gens-là n'avaient pas gagné d'argent en plus, s'ils avaient donné tout leur bien à la communauté, normal, comment ils auraient pu payer une amende. Donc, vraisemblablement, il n'y avait pas une communauté de biens totale, comme on l'a parfois pensé, comme on l'a parfois supposé. Enfin, j'anticipe, nous aurons le cas de plus. Maintenant, les fouilles ont continué dans les années qui ont suivi, et notamment lorsque les conditions politiques sont redevenues plus calmes. Et on a découvert un certain nombre d'autres manuscrits, dont on est d'ailleurs toujours en découvert. Ça, c'est sans doute une mine d'or incessante, parce qu'on dit ça. Et justement, puisque nous parlons d'or, on a découvert non pas de l'or, mais on a découvert un curieux rouleau de cuivre. Et sur ce rouleau de cuivre, que vous avez peut-être vu, vous avez sûrement vu d'ailleurs autant de cuivre, pas tellement gros, c'est un cylindre de cuivre, sur lequel vous avez mis plus ou moins que l'inventaire d'un trésor. Autant que vous voyez. Il n'est pas très gros, il y a une petite vitrine, justement, alors c'est pas bien. Toujours est-il que sur ce rouleau de cuivre, sur ce cylindre de cuivre, est décrit un trésor, l'emplacement d'un trésor. Alors il nous dit de nous dire que l'appétit des chercheurs s'est trouvé stimulé particulièrement. On a cherché aux endroits décrits par le rouleau de cuivre, on n'a rien trouvé du tout, soit parce que jamais ce trésor n'a existé. Soit parce qu'il est devenu réel, mais que les visiteurs sont passés avant les archéologues depuis 2000 ans, soit parce que ceux qui l'ont caché eux-mêmes, eh bien, sont revenus par la suite et ont emporté leur bien. C'est vraiment très important. Maintenant, j'ai oublié de dire aussi qu'en 1967, on a découvert, enfin, la dernière découverte des manuscrits de Verlan date de 1967, au moment de la guerre des Six Jours. Quelques années avant la guerre des Six Jours, le professeur Gadine avait reçu d'un propriétaire une lettre anonyme dans le pivot, tenait un petit fragment. D'un même style qu'il a immédiatement reconnu comme étant un grand fragment, qu'il a pu d'ailleurs dire, bah, il a été écrit par Pécis, tout à l'heure. Et son correspondant à Venise qui nous disait que ce fragment avait été pris par lui d'un document beaucoup plus important qui se trouvait dans Jordanie et qui, en raison des circonstances politiques, très exactement disait se trouver dans la ville de Jérusalem, qui était en sous-domination jordanienne à l'époque, et en raison des circonstances politiques, évidemment, les Israéliens n'avaient pas accès à cet endroit. Mais son correspondant qui avait pu y regarder l'anonymat et de Londres, lui donnait l'adresse exacte de l'endroit où se trouvait ce document, la maison le plus particulier qui avait récupéré ce document et qui le gardait. Si bien que dès le 7 juin 1967, au moment où les troupes israéliennes sont entrées dans la ville de Jérusalem, Yadin s'est empressé de se rendre à la maison de l'arabe en question, l'adresse qui lui avait été donnée, et effectivement, il a trouvé le fameux manuscrit. L'arabe s'était sauvé au moment de l'avance israélienne, mais il n'avait pas pensé emporter ce document. Et c'était en fait un document extrêmement important qui faisait un peu de. Malheureusement, tout de suite, Yadin s'est rendu compte que ce document avait davantage souffert pendant les quelques années qu'il avait passées chez cet arabe que pendant les 2 ans qu'il avait passé sur la mer Noire. Dans ce sens que toute la partie intérieure du manuscrit avait pris l'humidité et était absolument inutilisable. Il l'a emporté chez lui. Il l'a fait dérouler par un groupe d'amis chirurgien de neurochirurgie, chirurgie du cerveau, et qui, immédiatement, il a vu que la partie intérieure du document était inutilisable et qu'on essaie de forcer, ou bien qu'on allait tout déchirer. Alors, Et une fois déroulé, ce document s'est révélé être beaucoup plus grand encore que le grand rouleau des Aïe. Là, nous avions affaire à un rouleau qui faisait entre 8 et 9 mètres de long, pas déroulé, et qui se révélait être un document tout à fait particulier, un document plus grave, un document, mais qui se donnait comme une prophétie, comme une révélation de Dieu, une nouvelle Torah qui était donnée par le Seigneur, comme la Torah avait été donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Dieu y parlait à la première personne, en disant, voilà les lois que je vous demande, etc., de mettre en pratique, à vous qui êtes en quelque sorte le véritable Israël, le véritable reste d'Israël. En gros, ces lois se regroupaient en 3 catégories. Elles étaient classées par thème, par sujet. Par exemple, je ne sais pas, moi, je peux faire le sacrifice, je peux faire le Shabbat, ce qui concerne les fêtes, etc. Pas public, c'est un peu comme une encyclopédie publique, si vous voulez, pour tout ce qui se réfère à telle ou telle visée. Et ce qu'on pouvait, c'était d'une part ce qu'on appelle des alakhot en hébreu, c'est-à-dire des commandements, si vous voulez, qui sont connus par ailleurs par la Torah, de manière classique, et puis un certain nombre d'autres qui sont tout à coup publiques et particulières de la secte de Torah, et qui donc donné comme une nouvelle révélation de Dieu. Alors ça, c'était pour ce qui concernait la première partie et la plus grande partie. La deuxième partie n'était pas moins intéressante. La deuxième partie, c'était une... Elle se basait, si vous voulez, sur deux choses. D'abord, sur la révélation que Dieu a donnée à Ézéchiel de la construction du nouveau temple. D'autre part, sur l'ordre que donne Salomon, pardon, David mourant à son fils Salomon pour la construction du temple. Vous trouvez ça dans le premier livre de Chroniques, à la fin du premier livre de Chroniques. Salomon, pardon, David dit à David, voilà, c'est toi qui construiras le temple, moi qui verserai le consent, le Seigneur ne veut pas que tu fasses le temple, etc. Mais par contre, ce que j'ai fait, j'ai préparé pour toi tous les matériaux nécessaires pour que tu construises le temple. Alors voilà, j'habite le groupe dans les temps du Palandor, dans les temps de Palandargent, dans les temps du Pierre Monsieur, de Pierre Taillé, etc. Dans les temps de Matériaux de Bois de Sèvres, etc., etc. Maintenant, pour ce qui est du plan du temple lui-même, eh bien, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as exactement comme le Seigneur te l'a dit. Et nous retrouvons cette idée dans ce document, c'est que le Seigneur, en quelque sorte, donne à la secte le plan de la reconstruction du temple à venir. Nous verrons justement que les gens de Qumran considéraient le temps actuel de Jérusalem, le temple d'Hérode, comme un temple sué, comme un temple dont le culte n'était plus légitime aux différents moments, et en particulier parce que la prêtrise qui exerçait le sacerdoce à cette époque-là n'était pas de la ligne de Sadoc, et par conséquent, le culte et les sacrifices étaient offerts par les prêtres là dans le temple n'étaient pas valables. Et le peuple, la secte, attendait dans les derniers temps la reconstruction d'un temple nouveau, la manifestation d'une prêtrise nouvelle, d'un prêtre qui serait suscité par le Seigneur, qui serait d'ailleurs un prêtre, un messie sacerdotal, à la manière de l'Église de l'approchement de Jésus, par exemple, et qui lui rétablirait le temps et rétablirait les sacrifices, même pour les mettre. Et donc cette révélation disait à la secte de préparer ce jour, qui avait à de mettre de côté les matériaux nécessaires, là, parce que le temps est proche, et de se. De, voilà, voilà comment il fallait construire la Jérusalem nouvelle et le temple. Et il y a un certain nombre de points communs, d'ailleurs, avec aussi l'Apocalypse, la nouvelle Jérusalem, les expositions, etc. La réunion évidente entre Jérusalem et l'électrique un peu plus l'autre, n'est pas une ville de celui-ci, la ville tout simplement, telle qu'elle est décrite, serait absolument impossible. Ce n'est pas une vision idéale. Alors, le rouleau se terminait ici sur la guerre eschatologique qui précéderait la prophétie, qui précéderait le rétablissement de Jérusalem. On retrouve à peu près ce qu'il y a dans le rouleau de la guerre, le pied de la lumière contre le pied des ténèbres, avec toutefois une différence, c'est qu'on insiste essentiellement sur la dernière manche, la septième, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, il y a tout un son ensemble de règles de guerre, tout un principe, un manuel de guerre, avec une situation, une stratégie militaire, avec des moyens de l'époque, des gens romains, en gros, qui auraient pu, s'il vous plaît. Et puis, alors, en particulier, ce qui est intéressant, ce qui est tout à fait curieux, c'est que, il est dit, voilà, cette dernière crise sera extrêmement courte. Je ne vais pas le dire, si je dis très exactement, le septième jour sera le jour du jour. Le jour où le Seigneur deviendra pour l'éternité. Et cette crise sera précédée de 3 semaines d'une pression intense. Et voilà comment vous devez réagir. Pendant la première semaine, vous vous diriserez dans le temps de quelques personnes de l'éternité. La deuxième semaine, c'était exactement ce que l'armée d'Israël a été dans la guerre civile, les gamines étaient bien placées pour le savoir, parce que c'était vous qui avez gagné la mobilisation. Parce que quand il y a des conclusions particulières, enfin, la correspondance est passée effectivement et assez vite. Et pour cette raison, Gadim a donné à ce rouleau le nom de Boudou, sur lequel on peut parler de spécialistes. Et avec ce rouleau du temps, eh bien, nous avons aussi la conquête qu'on fait des découvertes, enfin l'essentiel des découvertes du Qumran. À la fois donc sur le plan de l'idée, sur le plan des découvertes proprement archéologiques, bâtiments, à Qumran, à Qumran, etc. D'autres aussi, tout petit, ont été découvertes toujours aux endroits de l'aéroport et dans le à proximité immédiate du désert du Qumran. Et finalement, les découvertes de Chouette, c'est forcément le plus important. Bon, si vous voulez dire ça, plutôt que d'entrer maintenant dans l'interprétation et la synthèse de toutes ces découvertes, comme il nous reste un peu de temps, quelque chose que le mieux de la route, plutôt que j'entends quelque chose, je ne vais pas dire plus. Voilà, c'est le mieux de la route.